Jeff Boudreau. Salut.
Luc Denoncourt, bonjour.
Comment vas-tu?
Super bien, merci, toi?
Ben oui, ça va super bien. T'es venu pas nous parler, ben on va en parler là, de ta carrière d'acteur, mais c'est pas pour ça que je t'ai invité.
Pourquoi tu m'as invité, Luc? Qu'est-ce que tu veux me demander, là?
T'es actionnaire de Beamer depuis déjà quelques années. Ouais. Et là, vous avez lancé l'opération Distillerie.
Ouais.
Et il y a un gin qui est sorti en premier. Et là, ben je vais la montrer à la caméra. Alors, il y a une vodka. Maintenant.
Oui, la Beamer Vodka.
Comment c'est né l'idée de la distillerie? J'imagine que c'était clair dès le départ, en même temps que la microbrasserie là, qui allait avoir ce volet-là qui allait naître. Là.
Oui, 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 c'est ça. En 2018, quand je suis arrivé à microbrasserie, déjà Philippe, qui est l'actionnaire principal avec Sandra, sa femme, me disait, regarde, on part la microbrasserie, on met ça sur les rails, puis après ça, on décolle la distillerie. Fait que parfait, j'ai de moi distillerie, je connais rien là-dedans, vraiment néophyte, mais pas de trouble, on va te former, on va te montrer comment ça fonctionne. Fait que depuis, c'est ça, on a commencé 2019, mais là, la pandémie nous est tombée dessus.
Ouais.
Fait que là, on n'a pas pu sortir notre gin en premier, donc on a sorti un gel désinfectant pour les mains, Pure Boreal. Parfait, parce que ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau, parce que mon gars, c'était un peu l'enfer, là. Et là, ben, on est revenu à notre premier projet, qui était de sortir un gin. Puis depuis, c'était en vente à la distillerie dès décembre 2020. Mais là, depuis février 2021, on est dans les SAQ. On est rendu pas loin de 200 SAQ. Fait que ça va bien. Les commentaires sont super bons. On a participé au London Spirit Competition. On a gagné une médaille d'argent. Fait que vraiment fier. Que des bons commentaires. Regarde, il y a des sommeliers qui nous ont dit... des gens qui travaillent pour la SAQ qui nous disaient, regarde, moi, ça fait partie de mon top 3. Pas de gin au Québec, de gin au monde.
Wow.
Fait que tu fais comme tabarnouche, OK.
Est-ce que le défi, c'est ça? C'est de se démarquer? Parce que des gins, des bons gins, il y en a.
Ah oui, il y a au-delà de 150 gins ici au Québec. Là. C'est pas vrai que, bon, les 150 gins peuvent être produits en quantité industrielle, mais quand même, oui, c'est de se démarquer. Comment on fait pour se démarquer, nous? Ben, de un, l'alambic. On travaille avec un Mueller. C'est considéré comme étant les meilleurs alambics au monde. Philippe, il voulait absolument avoir ça. Sinon, il n'y avait pas de distillerie. Il ne s'est pas trompé parce que ça fait vraiment la différence. Après ça, des produits de qualité. L'eau de Roberval aussi. Ça paraît niaiseux à dire, mais bon, l'ingrédient le plus important dans de l'alcool, autant que de la bière, c'est l'eau. Puis l'eau de Roberval, c'est une eau qui est assez exceptionnelle. C'est une eau qui a les mêmes propriétés que la ville de Pilsen, en République tchèque.
OK.
Donc, quand on l'avait envoyé justement faire analyser l'eau au début, quand on avait parti de la microbrasserie, Michel Gauthier, qui est un gars qui fait des startups de brasserie et tout ça, puis il dit ça se peut-tu que vous soyez trompé là, dans votre analyse d'eau, parce que ça n'a comme pas de sens. Fait que non. Il dit ça, il dit, c'est l'eau de la ville. Oui. Il dit tabarnouche. Il dit, vous avez les mêmes propriétés que Pilsen. Il dit, c'est une eau qui est pure, tu sais. Il n'y a pas de minéraux dedans. Assez qu'il faut rajouter du stock, t'sais. Mais ça vient de loin, là. À un moment donné, il y avait comme eu une espèce de projet pilote à Roberval. Ils voulaient tester des appareils pour filtrer l'eau. Puis si ça fonctionnait bien, mais le gouvernement allait en mettre partout dans la province, mais ça coûtait excessivement cher. Fait que finalement, il a abandonné le projet, mais nous, on est resté avec ça. Fait que ça filtre l'eau du lac de façon sensationnelle.
Et il y a la vodka qui est là depuis peu, ouais, en fait.
Oui, la vodka vient tout juste de sortir. Beamer Vodka, un autre produit d'exception. C'est sûr que là, je fais très, très, très vendeur, mais regarde, comme je te dis, je suis arrivé, j'étais néophyte, je connaissais pas ça. Puis maintenant, tu sais, je compare avec les autres, puis bon, on a la chance aussi de travailler avec des experts. Tu sais, juste le gin, pour finir avec le gin, on a travaillé avec une londonienne, Julia, qui est une experte en gin, qui juge aussi à l'international. Puis cette fille-là, on l'a connue grâce à la personne qui est venue, qui nous a vendu l'alambic, en fait. Philippe a connecté avec lui, avec elle, pardon, puis ça a marché, tu sais. Philippe a déjà son idée de gin. Fait que ils ont travaillé ensemble, puis ça a donné le Beamer Gin. Beamer Vodka, une autre histoire drôle. Philippe est en train de travailler sur la conception de cette vodka-là, blablabla. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient pour réparer un appareil à l'usine. Fait que je passe jaser avec. Puis le gars, il dit, t'es en train de travailler sur une vodka? Il dit, ouais. Il dit, moi, j'ai un chum. Il dit, il a travaillé dans une distillerie, écoute, en Roumanie, mais c'est un russe, blablabla. Puis il dit, il est rendu ici au Québec. Il dit, t'aimerais-tu ça que je te mette en contact avec lui? Puis c'est assez cliché. Là. Tiens, un russe, une vodka. Il s'appelle Sergei, en plus. C'était bon. Fait que finalement, Sergei, fait comme OK, il accepte. Fait qu'il est parti le matin, super tôt de Montréal. Il est arrivé chez nous. Écoute, ruste, tu sais, parlait pas, bête. Il disait pas un mot. À un moment donné, je sais pas, il le cherchait dans l'usine, il le trouvait pas. Il était dans le fond de la cour, à l'autre bout, caché. Les deux mains comme ça, devant le nez puis la bouche. Là, Philippe, il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de se faire une ligne dans le coin du terrain là-bas. il revient dedans, puis il dit, non, trop d'odeur, ici, trop d'odeur, j'arrive pas à sentir trop d'odeur. Fait que finalement, il a tout pris ses affaires, il est parti. Parti à Montréal. Au bout d'un mois, on reçoit des paquets. C'était trois types de vodka. Il dit, essayez ça. Puis les trois étaient écœurants. Fait que c'est ça. Fait qu'on a, Philippe était parti créer une base. Lui est comme venu bonifier tout ça. Il nous a donné certaines techniques qu'on peut pas dire parce que, bon, ça vient... faut pas dire notre secret là-dessus.
C'est ça.
Mais sinon, on est super fiers. Puis, tu sais, une vodka à base, c'est un peu drabe. Tu sais, c'est incolore, inodore, sans saveur, tu sais.
Comme le gin, bien souvent.
Ben le gin, ça peut être plus funky peu. Une vodka, pour que ce soit une vodka, il faut respecter certains dogmes, tu sais. Fait que nous, ce qu'on a fait pour venir y donner du caractère, oui, on a travaillé avec le Russe qui nous a donné certaines techniques qui vient enlever des esters plus déplaisants un peu dans une vodka. Mais on a pris 75% d'alcool de grain, puis on est allé prendre 25% d'alcool de bleuet. Donc, on fait fermenter le bleuet sauvage du lac Saint-Jean, on tire de l'alcool de ça, fait que les sucres viennent bonifier cette eau de vie-là, puis ça vient vraiment y donner du caractère, ça y donne une couleur super intéressante.
Et d'ailleurs, si on revient au gin, il y a un côté, quand on s'est parlé, nous, parce qu'on se parle des fois,
ouais.
Tu disais qu'il y a un côté où on n'a pas besoin de mettre de tonic, il se boit super bien avec rien dedans. Le gin, tu peux le boire juste comme ça, et c'est comme ça que je le bois, moi, puis il est excellent comme ça, parce qu'il y a un petit côté... herbacé, il y a un petit côté agrume dans le gin aussi. Là. Vous avez rajouté des trucs.
Oui, c'est
pour
ça.
Pour que ça goûte, pour qu'il y ait un goût de quelque chose.
Oui, ben c'est ça, les épices boréales qu'on a faites. Il est agrumé. La palette, en fait, à la sac, c'est agrumé. Mais bon, la présence du poivre des dunes, des épices boréales, bon, la baie de cassinoïde, ça vient justement, là, ça transparaît. Puis c'est drôle parce que quand tu distilles, puis on distille de façon différente, parce qu'habituellement, quand tu distilles, il y a un basket qu'on s'appelle à épices. Tu mets toutes tes épices là-dedans, tu passes ton alcool, pack, tu fais dormir ça pendant un certain temps, après ça, tu embouteilles. Nous, on travaille d'une autre façon. Ce qu'on fait, c'est que on prend, exemple, la baie de cassinoïde, on met ça dans l'alcool, on laisse fermenter ça une nuit, après ça, on met ça dans l'alambic. On fait la même chose avec l'agrume, avec les épices boréales puis le poivre des dunes. Ensuite de ça, là, on va monter le gin selon... selon une recette précise, on laisse dormir un mois et on embouteille. Donc, c'est quatre distillations. Ce qui fait en sorte que, tu sais, on a un produit qui est hyper raffiné. T'as vu, là, tu le bois, t'as pas d'arrière-goût, rien, ça se boit tout seul. Faut faire attention parce que, mon Dieu, t'as l'impression que tu bois quelque chose qui est pas fort, mais ça l'est. Même chose pour la vodka. La vodka, tu vas voir, là, à l'attaque, ça se boit.
Je sais, j'y ai goûté.
Bon, c'est ça, tu sais, souvent, des fois, une vodka, ça va avoir une finale qui va être un peu plus robuste ou qui va faire oh, OK. Pas ça. Ça finit tout en douceur. Ça se boit tout seul. C'est dangereux!
Mais on parle de Beamer, mais avant tout, c'est la bière.
J'essaie de nous filmer en même temps, FaceTime.
Ben non, mais tu iras chercher la vidéo direct sur notre site.
C'est bien meilleur, oui. Bon, OK. C'est quoi ta question?
Ça a été la bière au départ.
Ben oui, ça a été la bière. 2017, la microbrasserie a vendu ses premières bouteilles en juin 2017. Moi, je suis arrivé en 2018. Mais c'était important pour moi de pas juste être la mascotte. Fait que j'ai dit, regarde, OK, parfait, je m'associe avec vous autres, mais je veux être un actionnaire actif, je veux mettre des billes là-dedans. Ce que j'ai fait, puis je suis content parce qu'on travaille vraiment en équipe. Tu sais, je m'occupe beaucoup des communications, je charge au marketing, fait que j'ai mon mot à dire, puis ils prennent mes idées en considération. Là, tu sais, fait que, je travaille sur la bière aussi. Tu sais, il y a une bière, la B2 de Beamer, qui est une IPA, c'est ma recette. C'est une bière que j'ai concocté moi-même. J'ai travaillé avec notre chef brasseur.
T'as proposé des idées? T'as écrit la recette, toi?
Ben moi, j'ai déjà brassé chez nous. Hein. Fait que chez nous, je brassais des trucs. On avait fait à un moment donné que les boys nous IPA, mais c'était pas ça. On l'avait manqué. Mais j'avais le goût de faire une IPA. Fait que je m'étais dit, bon, ben regarde, je vais travailler avec notre chef brasseur chez nous, Alain Gagnon. J'ai dit, Alain, regarde, voici ce que j'aimerais comme goût avec les houblons avec lesquels j'aimerais travailler, etc., etc. Je t'envoie un semblant de recette. Maintenant, viens le peaufiner, viens me dire qu'est-ce que toi t'ajouterais versus le système qu'on a. Fait que la B2, c'est ça. La B2, c'est une de mes recettes. Ensuite de ça, on travaille en ce moment. Il y a deux bières qui vont sortir prochainement. Une collaboration avec un athlète qu'on veut pas nommer tout de suite là, parce que ça va. On attend que la bière sorte. Seul cue que je peux te donner, c'est un joueur de la Ligue nationale. Fait que si tu fais des recherches un peu, tu vas le trouver assez facilement.
OK.
Qui joue dans la Ligue nationale, il viendra à Berval.
Bon. Ah! Ça va aller plus vite.
C'est ça. Ensuite de ça, on a fait une bière aussi, parce que, tu sais, faut savoir que M. Beamer, Horace Jensen Beamer, ça vient de là, c'est un homme de la Pennsylvanie qui, lui, est tombé en amour avec une Québécoise. Et ce gars-là, c'est un entrepreneur. Fait qu'il a développé le Québec. C'est vraiment méconnu. T'sais, d'ailleurs, okay. on travaille sur un documentaire pour le faire connaître. La Terrasse du Frein à Québec, c'est lui. Le réseau d'aqueduc à Québec, c'est lui. Le pont Royal Alexandra à Gatineau, c'est lui. Oh. La majorité du réseau ferroviaire au Québec, c'est lui. Pierre Roberval, ben pourquoi qu'on s'associe à lui? C'est parce qu'il y avait parti l'hôtel Roberval à l'époque. On a toujours appelé l'hôtel Beamer. Puis bon, il avait fait en sorte que le réseau de chemin de fer parte de Québec puis se rende jusqu'à Roberval. Fait que t'avais vraiment des gens fortunés qui étaient une espèce de club med.
Oh, ouais.
Écoute, il y avait l'électricité là-dedans, 200 chambres, un gros hôtel en bois. Hôtel qui a brûlé malheureusement là, dans le grand feu au début des années 1900, qui n'ont jamais reconstruit. Mais tu sais, si cet hôtel-là avait été reconstruit, écoute, Roberval serait pas la même ville aujourd'hui là. Ce serait peut-être plus, tu sais, Chicoutimi là, tu sais,
en fait, ouais,
la grosseur de ville. T'sais, on était censé avoir le Cégep, nous autres Duplessis finalement, ils s'entendaient pas puis il a dit OK, vous vous entendez pas, bon ben au lieu de faire un Cégep là-dedans, ben, qui appelait une école de métier à l'époque, ils ont offert un hôpital pour les fous, fait que c'est devenu un asile psychiatrique. Fait que tu sais, on est passé à côté d'une couple d'affaires. Ben, je pense que la ville aurait connu un autre destin.
La bière au départ a été disponible surtout au Saguenay.
Ouais.
Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais rapidement, ça s'est propagé. C'était l'objectif. C'était d'abord de faire ça pour les gens de chez nous.
Ouais.
Et ensuite, de l'envoyer partout.
Ben, au début, c'est parce que, regarde, nous autres, on brassait, là. C'était une marmite, là. C'était gros comme
rien. C'était la quantité qu'il fournissait pas pour le Québec.
C'était minuscule. On arrivait à peine à fournir la ville de Roberval. Fait qu'on a réinvesti rapidement. On a grossi notre système. Là, en ce moment, la façon qu'on est organisé, on peut fournir, je te dirais, il faut que tu sois capable de faire environ 750 000 litres par année de bière là, pour dire que t'es capable d'en envoyer un peu partout. Là. En ce moment, nous, on a une capacité de production d'à peu près plus 350. Là. Fait que, okay. On peut en envoyer, mais pas tant.
Puis pas en quantité industrielle.
Non, on cible. Là, vois-tu, ce qu'on a en ce moment, c'est une entente avec Métro. Fait que de plus en plus, nos produits vont être chez Métro. Donc, chez Métro, tu sais, chez Métro, il n'y en a pas tant. Là. Sur Frelso, il y a peut-être 250 Métro au Québec. Là.
Oui, oui.
Fait que,
Et il commence à développer ce secteur-là de bière. Ouais. Moi, j'en vois de plus en plus là, qui s'ajoute sur les tablettes.
Exactement. Écoute, tu rentres dans un métro ou dans un dépanneur spécialisé, puis tu vas avoir 400 bières. Là. Ouais. Fait que ça devient difficile. Là. Je veux dire, la compétition est forte. Fait que comment tu fais pour que la personne qui marche dans l'allée des bières s'arrête sur ton produit et dise « Ah, ben je vais essayer celle-là ». C'est ça qui est extrêmement difficile, tu sais, parce que tu veux créer une récurrence, tu sais, une habitude, tu veux que les clients reviennent, mais là, la majorité des clients font comme, bon, ben, j'essaye celle-là, la semaine prochaine, j'essaye celle-là. Il n'y a pas énormément de fidélité dans le milieu de la bière, tu sais. Fait que c'est plus difficile. Oui, comme tout le monde, on a nos produits chouchou qu'on rachète, mais c'est justement, là, c'est d'essayer de développer ça, de dire, bon, ben, je veux devenir un produit chouchou. Fait que c'est là qu'est le défi. C'est là qu'est le défi.
Est-ce que ça passe en partie dans le look? Parce qu'évidemment, oui, on achète avec nos yeux bien souvent, là, dans la panoplie de bière, on regarde les couleurs, ce qu'il y a sur les canettes, puis on fait « Ah, ça l'a ».
Oui, beaucoup. Faut que
ça soit bon aussi, évidemment, mais d'abord, c'est avec les yeux.
Exactement. La chose sur laquelle je travaille en ce moment, moi, c'est justement, quand tu t'en vas dans une allée d'épicerie, puis tu rentres dans le département des bières, là, c'est que les gens fassent « OK, ici, on est chez Beamer ». Ils comprennent que juste au visuel,
c'est Beamer.
Oui. Puis t'en as en ce moment qui ont réussi à le faire. T'as des brasseries, là, je pense à Cibois, à Sherbrooke, où ils ont tous des canettes blanches qui sont pas mal similaires. Il y a comme juste une ligne là, qui différencie chaque canette puis le nom. Mais quand t'arrives dans l'allée, tu fais comme « Ah, OK, là, je suis chez Cibois. » Fait que je veux arriver à faire la même chose avec Beamer aussi. Puis parce que si t'as pas goûté à la bière, je veux dire, regarde, comment veux-tu en racheter? Tu le sais pas. T'as aucune idée. Fait que moi, je veux que les gens. Puis c'est de la bière accessible qu'on fait, c'est de la bière de soif. T'sais, on a des sections un peu plus funky, mais t'sais, je veux dire, nos bières de base. J'ai fait découvrir la Rousse cette semaine, en début de semaine, à un de mes amis. Puis fait comme, mon Dieu, c'est bien bon. T'sais, c'est, ben oui, c'est ça. Pis c'est sûr que c'est une. Faut savoir à qui on s'adresse aussi. Ouais. Parce que le type de branding qu'on a, c'est sûr que ça fait pas jeune. T'sais, c'est plus des gens de notre âge. Bon, c'est une certaine clientèle, tu sais. Mais les jeunes n'iront pas d'emblée vers cette bière-là. Mais quand ils goûtent, ils font « Ah, mon Dieu, elle est bonne! » Ouais. Mais c'est un branding qui est plus chic, tu sais, qui est plus... En tout cas.
Mais la bière de soif, c'est aussi parce que c'est la plus grosse clientèle, j'imagine.
Ben oui.
Elle est plus nombreuse, cette clientèle-là.
Exactement. Tu sais, on voulait avoir un produit accessible. Puis c'est des bières, justement, je reviens encore sur l'eau de Roberval, tu sais, c'est des bières qui sont bonnes dues à l'eau. C'est des bières qui sont faibles en calories parce qu'il n'y a pas un gros taux d'alcool. Fait que veux pas en ce moment, tu sais, les gens sont beaucoup là-dessus. Là, il y a pas un gros taux de sucre dans nos bières. Ensuite de ça, il y a pas énormément de pourcentage d'alcool est bas et pas beaucoup de calories. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant. Puis ça, c'est méconnu.
Et les gens cherchent ça.
Ben oui, les gens cherchent ça.
Et là, il y a un projet de Camerise, non? Liqueur de Camerise, non?
Oui, liqueur de Camerise, elle existe. La liqueur de Camerise existe. Écoute, la liqueur de Bleuet aussi. La liqueur de Bleuet, liqueur de Camerise, on est en attente en ce moment avec la SAC pour les sortir.
Okay.
La liqueur de Bleuet est même pas encore en vente en SAQ, qu'on a déjà gagné un concours. le même concours, le London Spirit Competition, on a gagné une médaille d'argent aussi avec la liqueur de Bleuet. Ça, c'est écœurant. Si tu as la dent sucrée un petit peu, là, tu vas, y a un petit fond de tarte au Bleuet dans ce drink-là. C'est écœurant. Ah ouais, tu prends ça avec une petite glace ou tu mélanges ça avec... Un autre truc, là, c'est hyper intéressant. Tu perdras pas de poids avec moi, là.
Et la liqueur de Camerise?
Liqueur de Camerise?
La Camerise, c'est quoi, pour ceux qui connaissent pas ça?
C'est un fruit qu'on a au Lac-Saint-Jean. Liqueur de Camerise, ça peut ressembler un peu, justement, à un bleuet aussi.
Okay.
Donc, puis moi, personnellement, j'aime mieux la liqueur de Camerise que la liqueur de bleuet. Et même chose avec, parce qu'on a une bière, on a une blanche bleuet basilic et Camerise basilic. Et j'aime mieux la Camerise aussi. Je trouve que c'est un petit peu plus, je te dirais, un petit peu plus acide que le bleuet.
OK.
Fait que dans une bière, ça vient donner un petit quelque chose de bien, bien le fun. Là,
tu veux me donner une recette, t'as dit?
Oui, je te donne une petite recette. Oui, oui, petite recette estivale. Vous allez voir, c'est dangereux. Faites attention. Là. J'ai même goûté à ma recette hier soir avant de
me coucher. J'ai peur moi-même.
Non, non, mais tu vas voir. Regarde, c'est une slush. Oui, c'est simple au bout. Tu vas prendre 2 litres. Trouve-toi un bon gros contenant que tu peux mettre au congélateur. Là.
Ouais.
Tu vas prendre 2 litres de jus d'orange.
Okay.
2 litres de jus d'ananas, 1 litre de jus de pamplemousse et un 26 onces de Beamer Vodka comme ça. Tu mélanges ça comme il faut, tu laisses ça au congélateur, je te dirais un bon 36 heures. Puis là, après ça, tu vas voir, ça va être semi-gelé, là, en slush, justement. Fait que tu mets ça dans un verre. Si tu veux, tu peux rajouter un peu de Canada Dry. Mon gars, c'est partout tâté sans culotte de velours. Tu vas voir, c'est dangereux.
Et ça a passé le test? Tu l'as
moi, c'est une recette de ma sœur.
OK.
Une recette de ma sœur Martine. Puis, mais là, c'est encore meilleur parce qu'on l'a fait avec la Beamer Vodka, qui est de la bonne vodka.
OK. Elle faisait ça avec une autre vodka.
Elle faisait ça avec n'importe quoi.
Moi, c'est ça. Jeff, tu t'en vas en moto?
Oui, ben en fait, je m'en vais en moto l'année prochaine. Cette année, je teste le matériel. Parce que regarde, si je vais te conter un peu l'histoire vite, là. Je suis un triple de moto. Je fais de la moto depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 25 ans à peu près, je fais des voyages à chaque année, 10, 12 jours. Mais je rêve d'aller dans le sud-ouest des États-Unis en moto. Tu sais, Moab, puis Jerome, puis Monument Valley, puis le Colorado, le Nouveau-Mexique. Tout cet été, la Californie. Mais pas, je suis pas en Harley Davidson. Moi, j'en ai eu des Harley. Ça, mais écoute, j'ai acheté ma 47e cette année. Maladie mentale.
T'es garde combien de temps, moyen?
Ben, j'ai garde.
47.
Non, ben, j'ai pas 47 en ce moment. Là, j'en ai depuis toujours. Là, depuis 40 ans, si tu veux. Là. J'ai garde un an, deux ans. Il y en a que je vais m'attacher, je vais garder plus longtemps. Mais sinon, il y a une bonne rotation. Puis, mais je suis chanceux parce que j'ai des concessionnaires aussi qui m'aident beaucoup. Ouais. Puis je dis qu'ils m'aident. Non, des partenaires d'affaires, mettons. Appelons ça de même. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'étais jamais capable de partir assez longtemps parce que j'ai des horaires atypiques. Fait que plus que 10-12 jours, je perdais des contrats ou quoi que ce soit, ou avec la famille, c'était compliqué. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, j'aimerais ça faire ce voyage-là pour mes 50 ans. Elle dit, pas de problème. Fait que, j'ai dit, bon. Mais là, COVID est arrivé, blablabla. Ben écoute, si jamais tu veux partir avant, ben j'ai 46. Là. Si jamais tu veux partir avant, ben dis-moi, ça me dérange pas. Là. Dis, regarde, avec la COVID, puis tout ça a été plate. Puis regarde, dis, profite-en l'année prochaine, si tu veux, vas-y. Hey, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Fait que l'année prochaine, je vais avoir 47. Le 1er mai 2022, aller jusqu'au 31 juillet 2022, je pars 13 semaines en solitaire aux États-Unis. Je fais le tour des États-Unis à moto. À la rencontre des gens, à la rencontre de soi-même un peu aussi, veux pas, parce que c'est une espèce de compostelle, ouais, tu sais, ouais. Je veux dire, je suis tout seul. Évidemment que, bon, il y a des gens que je connais aux États-Unis, là, j'ai un oncle, des tantes, des amis, le chanteur Robbie Johnson, qui est ouais. À Tennessee, je vais aller voir Robbie, il y a un gars avec qui j'étais allé à l'école, qui était à Salt Lake City, je vais aller le voir, bon, une cousine en Californie, etc., etc., tu sais, je vais me promener. J'ai des amis aussi, des passionnés de moto, comme Michel Barrett, etc., etc., qui m'ont dit, ah ben moi, je vais aller te rejoindre à telle place, moi, je vais aller te rejoindre à telle place. Fait que, tu sais, je vais quand même avoir un peu de visite, là. Mais oui, c'est que des fois, je vais me retrouver tout seul dans ma tente, dans le bois, parce que le type de voyage que je veux faire...
OK, tu vas même pas dans les hôtels. Là.
Je vais faire des hôtels aussi,
okay.
Mais c'est parce que, tu sais, moi, j'aime les motos, les dual, les double usage, tu sais.
Ouais.
Fait que ce que j'ai comme moto, une KTM 890, je peux faire autant de bitume que de gravier. Puis là, j'ai fait venir les Butler Maps. C'est des maps qui... c'est des Backcountry Discovery Route. T'as vu que je suis bon en anglais, en plus, ça va être fun.
C'est ça. Avec un accent.
Ouais, oui, facile. Puis ça, c'est l'arrière-pays des États-Unis.
OK.
Donc... je vais tout prendre ces routes-là. Fait que, je sais que quand je vais tout faire la Nouvelle-Angleterre au début, là, je suis dans le bois. Je m'en viens dans le bois. Ben, je sors dans l'État de New York là, pour rentrer en ville, Manhattan, avec la moto pleine de boîtes. Puis après ça, bon, ben, je vais Philadelphie, Washington, je vais relonger à la gauche, jusqu'à Key West, je vais remonter vers la côte ouest de la Floride, jusque dans le Tennessee, je vais redescendre jusque en Louisiane, après ça, bon, Texas, puis là, tous les États de l'Ouest. Pour revenir Colorado, Mont-Rochemort, Chicago, Toronto. Bon, à peu près 35 000 kilos environ.
Mais t'es un papa, toi?
J'étais un papa, j'ai 3 enfants, j'ai une maison bigénérationnelle et j'ai un chien.
Vas-tu t'ennuyer? Parce que ça va être 13 semaines sans voir tes enfants puis ta blonde. Puis,
je pense que les 3 premières semaines, je vais être content de ne pas tondre le gazon puis pas vider le lave-vaisselle à chaque soir. Mais
tu pars une partie de l'été, toi, faut que tu te débarrasses de tout ça.
Ben, tu ris, mais il faut que je planifie aussi, là. Parce que je ne serai pas là. Il y a un paquet d'affaires que ma blonde ne fait pas, que c'est moi qui fais. Fait que, c'est beaucoup de planification, c'est niaiseux à dire, là, mais c'est bien de la planification. Mais oui, je dois sûrement m'ennuyer, c'est sûr. Mais je pense que ça fait partie
remarque
un
avec
peu
les technologies, tu pourrais aller. Leur parler pareil, en FaceTime et tout ça.
Je pensais que tu allais dire faire le gaz en distance.
Peut-être.
C'est sûr que je vais leur parler. C'est sûr que je vais leur parler, évidemment, via la technologie. Je vais traîner aussi mon laptop, je vais traîner un micro. Parce qu'on l'a vu dans le cadre de la pandémie, là, j'ai fait plein de voix à partir de là. Je fais pas mal de voix.
Dans ton garde-robe.
Oui, c'est ça. Je l'ai fait plein dans mon garde-robe. Fait que, c'est sûr qu'à distance, si je suis capable de garder mes contrats, de dire, ben regarde, moi, si je sais que vendredi, j'ai une voix, ben je vais me louer une chambre à tel hôtel, puis je vais faire la voix à partir de ma chambre. T'sais. Je vais l'envoyer via Google Chrome, comme j'ai fait cette année. Fait qu'on va essayer de faire ça. Autre chose aussi que je suis en train de travailler avec la télé, c'est de faire une chronique une fois par semaine. De dire, bon, cette semaine, j'ai vécu telle affaire.
J'étais en direct de telle place.
C'est ça, j'ai visité tel truc. Il m'est arrivé, j'ai fait un flat, bon, dans le cadre d'une émission. Fait qu'on est en train de négocier ça en ce moment. Je vais mettre des caméras partout aussi.
Tu pourrais faire un documentaire avec ça?
Ben oui, je vais mettre des caméras partout aussi, ça, à la base. Parce que j'ai compté mon histoire à un moment donné. On a-tu du temps encore, là?
Vas-y.
J'ai compté mon histoire à un moment donné à Marc Fontaine de Touratech Canada, qui était un gars de c'est des accessoires de moto, des vêtements de moto. Puis ben, j'ai dit, je vais partir tout seul, je vais ramasser des images. Je ne sais pas quelle forme que ça va prendre. Est-ce que ça va être un documentaire? Est-ce que ça va être une émission de télé, là, genre 13 fois 22 minutes, ou juste des réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais j'ai dit, je veux ramasser du stock, puis écrire aussi, tu sais. Je vais écrire,
faire un petit livre,
donner des conférences après. Ben, je ne sais pas ce que ça va m'amener. T'sais. Mais là, Marc, il fait comme, dis-moi, j'ai le goût de te commanditer. Il dit, j'embarque avec toi là-dedans. Il dit, regarde, il dit, je te fournis tout l'habillement, les accessoires sans moto. 2 semaines après, il me rappelle, hey, je t'ai trouvé une moto, KTM va embarquer avec toi. Fait que bon, OK, voilà. Ça commence à être sérieux, mon affaire. Fait parfait.
Mais j'ai dit, là, il faut qu'on les voit, les logos des commanditaires. Fait que faut qu'il y ait du matériel qui sort de là.
C'est ça, exactement. Mais à la base, au pire, si c'était juste les réseaux sociaux, ça aurait été correct pour eux autres aussi. Mais moi, je veux amener ça plus loin. T'sais. Si je suis capable de rentabiliser ce voyage-là, ben tant mieux. Rentabiliser personnellement, mais je suis capable de le rentabiliser aussi pour la famille, parce que, comme je te dis, je sais que je vais perdre des contrats en étant là-bas. Mais regarde, si au moins je suis capable de récupérer autre chose...
Et ne serait-ce aussi que de le documenter pour plus tard tes enfants, puis pour toi aussi, un souvenir d'avoir... ça va être une fois dans ta vie, hein, tu ne fais pas ça 20 fois. Là.
Je ne sais pas.
Ben, 13 semaines.
Je ne pense pas 13 semaines que je vais faire ça 20 fois.
Tu vas sûrement
là.
Faire d'autres voyages de moto, mais peut-être pas 13 semaines.
Pas aussi longtemps, c'est sûr. Ah oui, 3 mois, c'est... J'ai une bonne femme.
Oui. C'est clair. On parlait de District 31.
Oui.
Ça a mal fini pour Jean Prière.
Ça a fini assis sur une chaudière.
Comment c'était ce tournage-là? Parce que ça doit être épuisant parce qu'on joue le drame, mais vraiment meur à meur. Le drame, la peur, c'est des émotions. Même si c'est du jeu, le corps le ressent. C'est jouer réel. Là.
Oui, c'était super agréable. C'est super agréable pour de vrai parce que tu sais, Brière, souvent, il vient passer à POC, il vient un peu rapper des affaires, il passe des messages, il fait des récapitulations. T'sais. Voici ce qui s'est passé des derniers jours. Là, j'avais une autre partition à jouer. Fait que j'étais super content. Il y avait beaucoup d'émotions. Je me suis bien préparé aussi parce que je le savais que ça allait être rapide. Ça va vite sur District. Fait que t'as pas de temps à perdre. Puis souvent, c'est des one-take. Fait que je me suis vraiment mis dans ma bulle, dans mon coin. Tu sais, d'habitude, je joue toujours avec tout le monde, puis je niaise un peu. Là, non, tu sais, je restais dans mon coin, puis j'ai été vraiment concentré sur ce que je faisais. On a tourné ça sur 2 jours quand on était dans le sous-sol. Puis je suis content du résultat. Je te dirais, malgré la vitesse à laquelle on tourne, je trouve que le résultat est quand même là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de coupures là, dans le district, c'est normal. On tourne, je pense, 9 minutes de plus à chaque jour. Mais sinon, je m'en suis fait beaucoup parler. Qu'est-ce qui va devenir de mon personnage dans la prochaine saison? Je le sais pas. Je vais le savoir 2 semaines avant de commencer, comme d'habitude.
As-tu eu peur qu'il soit plus là? Ça aurait pu.
Ben là,
il t'avait rassuré.
J'ai
comme
un petit deal avec Luc Dion. Okay. La première année, quand je m'étais fait tirer, il m'avait appelé, il dit « Tu vas te faire tirer. » Parfait, je garde. J'ai dit « Dramaturgie, les choix dramaturgiques, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. » J'ai dit « La seule chose que je te demande, juste, peux-tu me prévenir 2 semaines avant? »
Si je meurs.
Mettons que je meurs. Là, ouais, c'est ça, que je me prépare, je me vire de bord un peu. Il dit « Ouais, pas trop. » Puis de toute manière, il dit « Brière, il va être là, j'en ai besoin, il va être là jusqu'à la fin. » Mais tu sais, cette année, ils ont rentré une autre journaliste. Fait que là, je me disais, ah, peut-être qu'il a, il a peut-être le goût de changer, aller ailleurs, puis partout, je respecte son choix, tu sais. Finalement, il m'écrit, il dit, j'avais fini de recevoir des textes. Il dit, t'as-tu peur de mourir? Parce que c'était pas inscrit encore. Fait que, j'ai dit, c'est juste toi qui vas me le dire, hein. J'en ai aucune idée. Il dit, non, il dit, on va faire à croire qu'ils vont te passer, mais finalement, tu meurras pas, ta. Fait que, c'est ça. Fait que, sinon, est-ce que j'ai peur? J'ai eu peur un peu, là. Mais on a toujours peur, Christy. C'est de la job, là. C'est notre travail. On n'a pas le goût de se ramasser au chômage non plus.
Ça, c'est un contrat qui est là, qui est assuré. Ben, assuré. Tant qu'on n'est pas mort. En fait.
Ben, c'est ça. Est-ce qu'on est. C'est la dernière année, là, de signature au contrat, de ce que nous, on sait. Parce qu'habituellement, Radio-Canada, ils signent aux 2 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Est-ce qu'ils vont re-signer pour un 7-8? On le sait pas.
Ben là, ce sera de la volonté de l'auteur aussi. Là.
Ça va dépendre, c'est exactement. C'est énormément de travail pour lui. Ça. Fait que je le sais pas. C'est sûr que moi, en tant qu'acteur, puis t'sais, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Puis je suis capable quand même. J'ai pas des horaires comme Vincent Guillaume ou encore comme Michel Charette ou Gildard. Fait que je peux me permettre d'aller ailleurs. T'sais. Fait que c'est sûr que moi, tout ce que je demande, c'est que ça revienne. Là. Mais on va voir. Puis dans quel état je vais revenir cette année, je ne sais pas. Il va-tu être en syndrome de stress post-traumatique? Il va-tu, faire comme si de rien ne s'était passé puis se vautrer dans le travail? Je ne sais pas. J'ai hâte de voir.
Mais là, il leur en doit une.
Il leur en doit une. C'est sûr qu'ils vont peut-être le manipuler un peu avec ça.
Parce que lui, il a toujours joué un peu baveux. Ouais. Mais là... Ouais, dû d'écœurer le monde qui ont sauvé la vie, j'imagine.
Ouais, puis ils vont s'apercevoir sûrement aussi l'année prochaine que, tu sais, ça je peux le dire parce que le public le sait, mais tu sais, c'est la discussion que voyons, que Brigitte...
Paquette.
Brigitte Paquette, là, comment ça s'appelle? Mélissa?
Oui, Mélissa Corbeil.
Corbeil. La fameuse discussion entre Gildard... Et on voit que moi, je mélange les personnages entre Gildard puis Vincent Guillaume. Cette fameuse discussion-là, c'est Brière qui l'a donnée à Virginie Francoeur. Et ça, ils ne savent pas, eux autres. Fait que ça, ils vont finir par le savoir sûrement à un moment donné. Fait que là, ils vont sûrement être fâchés après monsieur.
Ça se pourrait.
Je ne sais pas trop, anyway.
Et là, tu reviens dans la Maison Bleue aussi?
Maison Bleue aussi. C'est gros automne, parce qu'on reprend District. Retour, 3e saison et l'ultime saison, je pense, de Maison Bleue. J'ai bien hâte de voir parce que Ricardo m'avait parlé un peu de où est-ce qu'il voulait s'en aller avec le personnage, qui a pris du galon d'année en année. Puis, évidemment que je peux pas le dire, mais c'est très drôle. C'est absurde, mais c'est très drôle.
Et là, toi, tu joues l'accent pas à peu près, là?
Ouais. En fait, je te dirais que c'est un accent, évidemment, qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Qui vient d'un maire qu'on a connu.
Et qui vient d'un maire qu'on a connu. Jean Tremblay, qui est librement inspiré d'eux. C'est haut perché et ça fait rire Guinadon. J'adore ça.
C'est comment jouer avec Guinadon, justement?
C'est extraordinaire. Écoute, avec Guy, tu peux pas être mauvais avec Guy. Là, je veux dire, il vient bonifier le jeu de tout le monde autour de lui. C'est un grand acteur. À mon avis, c'est un de nos meilleurs qu'on a en ce moment au Québec. Là. Je trouve que c'est un cadeau de jouer avec ce monsieur-là. On apprend aussi. T'sais. Puis, tu sais, il est bon dans tout, Colin. Il est bon dans le drame, il est bon dans la comédie. Il est drôle au bout, là, dans Maison Bleue. T'sais. Puis C'est un monsieur le fun à côtoyer aussi, tu sais. A priori, tu sais, moi, j'avais entendu dire, hey, Guinadon, pas toujours facile. Fuck it, c'est Guinadon, on est super fin.
Et on va te voir au cinéma aussi.
Oui, La Cordonnière. La Cordonnière, un film de François Bouvier. La Cordonnière, on va... Écoute, on a... Hey, c'est long, là. Ça fait déjà un bout, là. On avait commencé à tourner...
Là, il y a eu comme une pandémie. Là.
Oui, c'est ça. Avant la pandémie, on a débuté... Ben, en fait, l'été passé. Il y a comme eu un petit break.
Oui, oui, oui.
Fait qu'on a tourné quelques scènes en extérieur. Puis là, on reprend à l'automne pour finir le film.
OK, donc on le verra pas cette année, le film.
Eh non, je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir ça. Je pense que ça va aller juste
l'été prochain. Peux-tu m'en parler un peu de ce film-là? Qu'est-ce que tu peux me dire?
Je peux t'en parler. Élise Guilbeault qui est là-dedans. Écoute, La Cordonnière, c'est loin, là, j'ai même pas lu le scénario. Mais La Cordonnière, c'est le Château Dufresne qu'il y a.
Oui.
Bon, à Montréal. Château Dufresne, ça vient de cette famille-là. Parce que je ne me souviens plus du nom de la petite, là. Mon Dieu, je suis pourri. Faut faire la promotion de ce film-là.
J'ai pas fini de tourner.
Faut que je me remette dedans. Écoute, je te le dis, j'ai pas relu le scénario, ça fait un an et demi. Mais l'histoire, en fait, c'est parce que je cherche le nom du personnage. C'est une jeune femme. Son grand-père, elle, était cordonnier. Il est malade. Il est sur son lit de mort. Moi, je joue le père de cette jeune femme-là. Et j'ai travaillé toute ma vie. On n'est pas très riche, mais moi, je veux qu'elle aille à l'école, qu'elle fasse des études. Mais elle, tout ce qu'elle rêve de faire, c'est de devenir cordonnier, comme son grand-père, donc cordonnière. Elle veut designer des souliers. Mais c'est vraiment designer des souliers, là, pas des savates.
Ouais, je comprends.
Donc, cette dame-là, c'est inspiré d'un fait vécu. Cette dame-là, elle s'est mise riche à designer des souliers comme ça. Puis, bon, ben, dans son histoire, elle était tombée en amour avec le voisin d'à côté, qui avait l'âge de son père, tu sais. Mais finalement, bon, ben, c'était un amour impossible. Elle s'est rabattue sur son fils pour rester proche de lui quand même. Fait qu'elle a marié son fils, le Dufresne, justement, d'où le château Dufresne. Puis voilà, fait que c'est une histoire d'amour, c'est un success story aussi. Puis ça se passe dans les années 1800. Puis c'est rare au Québec là, qu'on est remonté aussi loin dans le temps pour faire un film. Fait que c'est vraiment agréable de tourner ça aussi avec les chevaux, puis le décor. On a tourné une portion au village d'antan. On se promène un peu, là, mais c'est vraiment les costumes, c'est hallucinant. C'est vraiment le fun à faire. Laisse-moi rectifier quelque chose un peu, parce que ça m'est revenu en tête. C'est le personnage principal, c'est Victoire.
C'était ça, le nom qu'on cherchait tant.
Tant interprété quand t'es jeune par Rosemary Perrault et vieille par Élise Guilbeault. Voilà.
Donc toi, tu joues beaucoup avec la plus jeune. Tu fais son père.
Exactement. Moi, je joue seulement avec la plus jeune. Mais je traverse les époques. Ils vont me maquiller. Là.
Donc, on va devoir vieillir à l'écran.
Yes.
Ça, c'est le fun, moi. Ouais. Comme acteur, j'imagine, c'est le fun.
Mais hein.
Là, on va revenir sur Beamer. Là, on a dit que la liqueur W.A. de Camry sont déjà disponibles. Est-ce que déjà vous pensez à un autre spiritueux qui pourrait voir le jour?
Je te corrige. Elle est disponible, mais pas encore disponible.
Pas à l'SAQ,
oui. Mais ça s'en vient. Oui. La mode est au gin. On ne se le cachera pas. La mode est au gin. 33% des ventes de la SAC, outre le vin, là, pour les spiritueux, c'est du gin. On travaille sur un autre gin en ce moment. La mode est au Seltzers aussi, fait qu'on travaille là-dessus. Regarde, le carnet de produits est plein, là, fait que c'est le temps qui nous manque et les employés parce qu'on est une petite business. Mais sinon, on travaille sur un brandy aussi qui va sortir incessamment.
Okay.
Brandy au bleuet.
Ah, wow.
On travaille beaucoup au bleuet.
Ils ne sont pas beaucoup qui font ça, j'imagine. C'est plus les gens qui travaillent au Saguenay qui travaillent avec le bleuet, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ouais,
bleuet sauvage. Ils font de l'alcool de bleuet, ça, non?
Ouais, ben nous autres, on est là-dessus. Distillerie du Fjord aussi travaille le bleuet. Mais oui, c'est ça, on est chauvin un peu avec ce petit fruit-là. Mais tantôt, on a parlé de l'histoire de Beamer, mais je n'ai pas complété ce que je voulais te dire. T'sais, je te disais qu'on avait deux bières qui allaient sortir. Il y en a une, c'est la Dufresne. Donc, expressément
avec
la terrasse, elle va sortir dans deux semaines, expressément pour le marché de Québec, la Dufresne.
Là, il y en a combien de bières au total?
On est à 10.
Okay.
Ouais, avec on a une collabo encore avec la boxeuse Marie-Ève Dicker. Cette bière-là existe toujours. On est très fiers de cette collaboration-là. Elle est tellement magnifique, Marie-Ève. Fait que ça, on l'encourage. C'est une bière qui...
Et là, vous êtes combien à la tête? Là, il y a Richard Turcotte qui
est
embarqué.
On est 7 actionnaires. Okay. Dans Beamer, autant au niveau de la distillerie que de la micro.
Est-ce que vous voulez être plus? Est-ce que c'est le souhait éventuel? Ou...
Écoute, on est non, on ne veut pas être plus, mais on n'est pas fermé. Si jamais
il y a Parce que Richard s'est rajouté il n'y a pas longtemps. Mais...
Oui, Richard, c'est tout nouveau. Là. Il y a des actionnaires donc, qui ont cédé leur place. Puis bon, ben, Richard a sauté sur l'occasion parce qu'il y a 2 ans, il était venu voir la distillerie, il avait bien trippé là-dessus. Puis il dit écoute, moi, aussitôt qu'il y a des parts qui se libèrent, je vais embarquer. Fait que Richard a embarqué avec nous. Très content. Quand on va être deux à.
Mais deux figures connues qui peuvent en parler, puis qui peuvent faire...
Ben oui.
Comme, mais en tout cas, faire,
on va crier la bonne nouvelle d'un bord puis de l'autre, là. C'est ça. Fait que... oui, mais on n'est pas fermé, tu sais, moment... Parce que, tu sais, on... Ici, au Québec, le monopole, c'est la SAC.
Ouais.
Mais si on veut un peu aller en exportation ou quoi que ce soit, ben ça prend des ressources. Fait que si jamais il y a des hommes d'affaires qui nous approchent, on a eu des rencontres avec certaines personnes. Là. Fait que c'est pas impossible là, qu'il y ait d'autres personnes qui s'ajoutent à Beamer pour justement qu'on mette nos tentacules un peu partout. Mais bon, on verra. En ce moment, ça va bien. Le petit train va loin. Puis regarde, ça peut être que ça aussi. Puis je pense que il y en a eu plein de success stories aussi avec des petits business qui sont partis de rien puis sont devenus petits deviendra grands. Là. Fait que à date, on peut pas se plaindre. On n'a que des bons commentaires, autant au niveau de la distillerie que de la micro. Fait que ça va bien.
Et j'imagine que dans la dernière année, vous avez appris beaucoup sur le processus avec les SAQ.
Oui.
Parce que c'est long.
Oui, c'est long. Ils ont leur.
Il y a des règles établies par la SAQ pour rentrer des produits. Puis il y a quelque chose qui.
Oui, ils ont une façon singulière à travailler. C'est ça. Mais il faut respecter ça. On n'a pas le choix. On travaille avec eux. Puis je pense que. Mais là, tu sais, je veux dire, la SAC, là, ils travaillent beaucoup sur le site Web. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment devenir une espèce de l'Amazon québécois de la boisson. Donc, le SAQ.com, c'est bien aussi, là, parce que, je veux dire...
ça permet d'avoir accès à des produits.
Par ouais, tu sais, les produits sont à l'entrepôt. Fait que moi, je me souviens, il y avait des succursales qui n'avaient pas... Puis encore une fois, aujourd'hui je pense qu'il y a 500 succursales de la SAC. Fait que c'est impossible d'être partout. Fait que si jamais, je sais pas, on est à Saint-Clinclin des Meumeux, on n'est pas là. Puis bon, ben regarde, allez sur SAQ.com, dites que moi, je veux le Beamer Gin ou la Beamer Vodka, puis ils vont la livrer à votre succursale préférée. C'est parce que les succursales peuvent pas avoir tous les produits sur les tablettes, non, c'est impossible.
Puis il y en a des plus petites, des SAQ.
Ben exactement, des Express, t'en as des indépendants aussi, donc c'est ça. Fait que le fait de travailler avec SAQ.com, moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée.
Si on veut de l'info sur Beamer,
microbeamer.com ou distilleriebeamer.com, vous allez arriver au même endroit. Belle page noire, vous avez les trois branches de la business, soit la micro brasserie, soit la micro distillerie, ou encore Pure Boréal, le gel.
Et je vais montrer à nouveau la vodka à l'écran. Alors voilà, il y en a à la SAQ, à Sorel.
Yes.
J'en ai acheté, fait qu'il y en a.
Essayez, ma slush.
Oui. ça prend de la place dans le congélateur, par exemple.
Oui, mais même t'as ça longtemps. Écoute, c'est un gros bac, là, j'en ai fait, là, moi, là, je vais en avoir pour...
Tu fais ton été
non.
Avec ça.
Oh, non, c'est ça, ça va prendre bien
de la vie. Si c'est traître, j'imagine que tu essayes de pas trop en boire.
Non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas traître.
Ok, c'est pas traître.
Ça se boit, mon gars, puis tu fais que, oh, t'as peu, faut se calmer.
Ouais, mais c'est ça. C'est parce que c'est facile d'en boire beaucoup.
Ben,
ça,
comme on dit au Château Frontenac, c'est bon dans l'IAL. Oh.
Jeff, merci d'avoir été là.
Ben, merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir, Luc.
Tu reviens quand tu veux, puis merci pour.
Faites 2 heures de route pour venir te voir.
C'est gentil.
J'en fais un autre 2 heures, 4 heures de route pour mettre la fois.
Oui, mais tu vas faire 13 semaines de moto. Ça te donne pas 2 heures de route. Merci beaucoup, Jeff.
Merci à toi.